Totalement ce qui
moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi et surtout merci de choisir de suivre ce troisième numéro des paroles aux auditeurs de la semaine. Le secrétaire d'État américain John Kerry a séjourné à Kinshasa du 3 au 4 mai dernier. Il a annoncé une aide de 30 millions de dollars pour soutenir l'organisation des élections en RDC. Il a par ailleurs appelé les différents acteurs au respect de la Constitution. Quelle est la portée de son message? C'est la question principale du débat de ce jour dans Paroles aux auditeurs. Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 63 15 ou au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Noëlla Luzitou et Héritier Sidiakala concourent à la production de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci à vous tous qui avez déposé vos messages sur notre page Facebook. Junior Tamboué, vous avez dit la RDC n'est pas un bébé. Pourquoi devons-nous être aidés à tout moment? On veut nous faire croire qu'il n'y a pas de sage au Congo. Jules Max Mbouyou dit ceci, le message clé de John Kerry, c'est en fait John Kerry est venu semer la confusion dans les chefs de la population congolaise. Eddie Kilocho, il est temps que la RDC joue son rôle régional pour y parvenir. Il faut une stabilité politique avec un pouvoir légitime, d'où l'importance des élections. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue à tous. Dans cette émission, nous recevons Dr Emmanuel Kabongo, qui est l'animateur de mouvement d'éducation à la conscience nationale, dénommé Congolais et Fier. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors pour vous, quelle est la portée de la visite de John Kerry en RDC?
Merci beaucoup, JR, pour l'invitation à l'émission. Je pense que la visite de John Kerry au Congo est passible d'interprétation multiple. On peut dire en premier lieu que c'est la visite d'un haut responsable américain dans un pays ami, donc ce qui est tout à fait normal. On dit aussi qu'il serait venu au Congo pour faire injonction au président Kabila de ne pas changer la constitution, donc de ne pas briguer un troisième mandat. On dit aussi qu'il serait venu au Congo parce que c'est l'Amérique qui a en définitive contrôle l'accord d'Addis Abeba pour se rendre compte de la gestion de l'air
de l'avancement de
le Congo. Donc tout ça, ce sont des interprétations multiples. Je crois que, comme toute visite d'un haut responsable, je crois que c'est possible de toutes ces interprétations. Donc, je n'ai pas beaucoup de soucis avec ça.
Quel regard alors on peut avoir sur, parce qu'elle est arrivée, c'est vrai, vous avez dit, il y a multiples messages, l'interprétation, mais on sait que ce qui était officiel, il a annoncé une aide de 30 millions de dollars pour soutenir l'organisation des élections en RDC. Il a par ailleurs appelé les différents acteurs au respect de la Constitution. Comment vous commentez cela?
Bien sûr. C'est vrai que dans le contexte de son arrivée ici, tout le monde sait qu'il y a d'une part le PPRD, la majorité présidentielle, qui sont à sa fin du pouvoir, qui voudraient rester au pouvoir pour un autre mandat, un troisième mandat. Et dans ce contexte, les gens ont dit que le haut responsable américain serait venu pour dire aux uns ou aux autres de respecter la Constitution, de respecter le mandat présidentiel et tout ça. Bon, mon interprétation à moi est que tout ça participe à une sorte de d'une volonté générale. Hein. En fait, aujourd'hui au Congo, tout le monde le sait, on voudrait avoir une véritable alternance politique. Le président Kabila gérait deux mandats. Nous estimons que c'est suffisant et qu'il doit pouvoir partir dignement dans le respect de la Constitution, et cela fera de lui ce qu'on peut appeler notre George Washington, c'est-à-dire quelqu'un qui gère l'État, qui laisse de l'État en puissance.
Oui. N'oubliez pas, professeur, le Congo, la RDC, c'est quand même un État souverain. oui. Comme l'a dit d'ailleurs un auditeur dans son message, que la RDC n'est pas au fait un pays qui est né de la dernière pluie. À ce titre-là, bon, il ne peut que jouer de sa souveraineté, organiser des élections à sa manière et aussi décider
pas
comme...
Pas à sa manière. En fait, ce qui est vrai, il faut le dire, les États-Unis d'Amérique, en tant que puissance mondiale unipolaire, ont une voix à dire dans tout ce qui bouge de par le monde. Ils le font en Ukraine, ils le font en URSS, ils le font en France, partout où ça bouge, les États-Unis ont une voix à dire.
Oui, mais les États-Unis...
C'est vrai aussi,
oui,
et je pense que docteur... notre auditeur a raison, c'est que notre pays... C'est vrai que j'entends les Congolais dire que notre pays est souverain. C'est vrai, c'est une souveraineté hypothétique. Tout le monde sait aujourd'hui que le Congo a une souveraineté très limitée, parce qu'il ne contrôle ni ses frontières, ni contrôle ni ses matières premières, et que tous les pays voisins ici nous briment. Mais cela ne veut pas dire qu'en matière d'organisation électorale, ça soit nous soyons là pour recevoir des leçons de l'Amérique. Mais ce qui est vrai aussi est que nous avons des hommes d'État qui ont tendance à vouloir rester au pouvoir de façon éternelle, même si les bilans sont tout à fait mitigés. Donc, dans ces conditions-là, quand une voix extérieure vient pour renforcer la volonté intérieure, qui est celle de dire, et nous le disons tous les jours, que l'alternance politique est indispensable, n'est-ce pas, à la grandeur des institutions, et nous disons, ok. Donc, pour moi, je ne vois pas en quoi un conseil dans ce genre-là nuirait à notre souveraineté. Qui déjà est tout à fait très limité parce que nous ne savons même pas supporter n'est-ce pas fait respecter nos frontières.
Donc, oui, oui, professeur, parce que vous avez, pardon, docteur Emmanuel, vous avez évoqué en fait la puissance américaine aujourd'hui en ce qui concerne le contrôle que les États-Unis exercent sur certains pays en Afrique ou dans le monde. Mais
nous avons punitions, qu'il y aura des ceci. Donc ils sont capables
nous avons vu quand même une certaine résistance du côté de Zimbabwe. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des problèmes dans cette partie d'Afrique.
C'est vrai que tu as vu ce que le Zimbabwe est devenu. C'était une très grande économie. Le Zimbabwe est devenu l'ombre d'elle-même. C'est vrai que la résistance zimbabwéenne, c'est une résistance qui n'aboutit pas à des résultats probants. Mugabe a résisté et tout le monde a dit il faut résister à la grande puissance. Mais qu'est-ce qu'il a fait de son pays lui-même? Il est resté au pouvoir, vieux, sénile, et pas tout de même. Et aujourd'hui, je crois que le pays en souffre. Nous voulons que les gens puissent faire de la résistance positive. On dit, voilà, nous ne voulons pas qu'on nous fasse des leçons, alors nous allons faire les meilleures choses du monde. Comme aujourd'hui, chez nous, si nous disons, nous ne voulons pas des leçons des Américains, alors le président Kabila va faire un discours, il dit, voilà, je ne me présenterai pas comme candidat. Ou pas ici, n'est-ce pas, aux spéculations morbides
il faut quand même souligner.
Et nous commençons dès ce moment-là à les respecter, à dire voilà l'homme qui entre dans l'histoire tout à fait vivant parce que nous n'avons pas de président vivant.
Oui, alors jusque-là, ce ne sont que des supputations parce que aucune déclaration officielle n'est allée dans les sens parce que nous savons que John Kerry a dit officiellement, comme je l'ai dit en sommaire, il a annoncé l'aide qu'il donne pour les organisations et il a rappelé aux uns aux autres le respect de la Constitution. Mais c'est vrai, les restes, ce sont des commentaires de couloirs et de
voilà. Vous connaissez comment le camp présidentiel agit.
Non, parce que
je ne prends pas la parole ici comme... non, je ne suis pas un homme politique. Mais le camp présidentiel nous a habitués à dire une chose et à faire son contraire. C'est-à-dire que ce sont des gens, on l'a vu en 2006-2007, nous n'avons pas changé de constitution, ils l'ont changé. Nous n'allons pas faire ceci, ils l'ont fait. Dans ce cas-là, nous voyons des gens comme... des jeunes gens qui sortent là-bas qui disent voilà, nous allons chercher des signatures,
voilà,
pour changer la constitution.
Oui, docteur Emmanuel, on va quand même repasser au standard. Comme ça, vous allez orienter les préoccupations des uns et des autres, comme vous êtes modérateur. Voilà, donc on va prendre Eddy qui est à Lubumbashi et Arsène de Kikwit. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous prenons Eddy de Lubumbashi. Eddy, bonjour. Eddy, vous êtes avec nous, bonjour. Eddy, vous êtes avec nous? Voilà, on va parler plutôt à Arsène qui est à Kikwit. Arsène, bonjour.
Bon. Bonjour, monsieur Gilles.
Voilà, Arsène, le secrétaire d'État américain, je l'ai dit, a séjourné à Kinshasa du 3 au 4 mai dernier. Il a annoncé une aide de 30 millions de dollars pour soutenir l'organisation des élections en RDC. Et il a par ailleurs appelé les différents acteurs au respect de la Constitution. Alors, pour vous, quelle est la portée de cette visite?
Merci beaucoup pour la parole. Je salue tout le monde. Mais je crois que la portée de ces conseils que John Kerry nous a fournis, c'est une portée qu'on ne peut pas prendre dans le hasard ou prendre ça à la légère. C'est sérieux. Nous avons de sérieux problèmes ici chez nous. Le problème de compréhension de ce que nous faisons. On dit une chose, on fait autre chose. Une fois ici en 2011, avant 2011, il y a eu des suspicions, options comme ça.
Oui, Arsène, s'il vous plaît.
La révision constitutionnelle.
S'il vous plaît, Arsène, si on peut rester quand même sur le message, bah, je parlais des 30 millions de dollars pour soutenir l'organisation des élections. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Je ne peux que féliciter et encourager. Mais quand on vous donne quelque chose comme ça, quelqu'un qui met sa main dans sa poche et vous remet quelque chose, il faut savoir le satisfaire et savoir lui faire plaisir aussi. Et en plus de cet argent-là, il a évolué, pas l'argent seulement, et il y a un conseil au-dessus. C'est pour ça que je disais ceci, que une fois ici sur les antennes, j'ai dit attention, ne touchez pas la Constitution avant les élections. Nous avons eu les conséquences que nous avons eues. Nous avons eu deux réponses de deux candidats favoris. L'un qui disait, bon écoutez, nous avons des élections qui n'ont pas été parfaites, il y a eu la tricherie ainsi de suite. L'autre qui disait, arrêtez et puis ligoter.
Voilà, donc si j'ai compris, voilà, si je comprends bien, Arsène,
l'argent qu'on nous a remis,
oui. Donc si je comprends bien, vous soutenez l'idée, la leçon, en fait, les conseils de John Kerry.
Oui, les conseils de John Kerry, nous devons les suivre. Vraiment, en tant que patriote, nous devons suivre ces conseils. Ce que nous devons faire, selon moi, à mon avis, ça n'engage que moi, nous devons laisser cette constitution tranquille. Si nous avons bien géré, et la population va sanctionner, positivement comme négativement. Aujourd'hui, nous n'avons pas à mettre devant les ongles le débat sur le changement ou la modification de la constitution. Laissons cette constitution tranquille. Ce n'est pas la constitution qui nous empêche de bien enseigner nos enfants, qui nous empêche de bien garder nos frontières, qui nous empêche de bien recevoir nos compatriotes expulsés, nos stades qui s'écroulent, tout ça. C'est pas la constitution, c'est notre comportement.
Merci beaucoup.
Changeons le comportement, laissons la constitution tranquille. Et sachons bien gérer cet argent.
Merci beaucoup, Arsène. Donc, vous en appelez à la conscience nationale, que l'argent soit très bien géré, et ce n'est que, en fait, une aide. Je crois que il reste aussi la part du gouvernement congolais pour arriver à organiser réellement les élections, et vous en appelez, disons, à la conscience, en demandant à ce qu'on puisse laisser, donc ne pas toucher à la Constitution, comme l'a soutenu John Kerry. Justin, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Justin.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole.
Oui, monsieur le journaliste. Mon intervention va s'articuler autour de deux points principaux. D'abord, premièrement, s'agissant du conseil du secrétaire d'État américain, John Kerry. Je suis d'avis avec un bon nombre d'auditeurs qui disent que le Congo est un État souverain. Et par conséquent, il n'a pas besoin de conseils, il n'a pas besoin d'être dicté dans tout ce qu'il fait. C'est bien. Mais nous devons quand même être très, très regardants et très réalistes. Vous savez, aujourd'hui, comme a dit le professeur Emmanuel, les États-Unis sont aujourd'hui une puissance planétaire. Et que donc, à ce titre, les États-Unis s'ingèrent, passez-moi le terme, s'ingèrent à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous passer des conseils nous donnés par les États-Unis. Parce que, une fois que ça barre, écoutez, ce sont les États-Unis qui vont mettre le paquet, qui vont mettre les moyens pour pouvoir investir dans une ou telle autre opération. Ça, c'est de un. De deux, on nous dit aujourd'hui que la Constitution, aujourd'hui, ne s'adapte plus aux réalités actuelles du Congo. Mais je suis très mal à l'aise d'écouter de tels raisonnements. Parce que, monsieur le journaliste, vous savez, pour changer une constitution, je pense quand même qu'il doit se passer des générations. Mais vous allez vous rendre compte que la génération qui a adopté cette constitution par référendum il y a 8 ans, si je m'abuse, c'est pratiquement la même génération aujourd'hui. Et on veut nous faire croire que la même génération qui avait accepté cette constitution en 2006, aujourd'hui là, cette même génération dit non, nous ne voulons plus de cette constitution, il faut la changer. Non, je pense quand même que nos dirigeants doivent être réalistes parce que la démocratie rime également avec l'alternance. Soit on veut une chose, soit on veut son contraire à la fois. Ce qui n'est pas du tout normal. Aujourd'hui, John Kerry nous dit, il nous promet l'aide de 30 millions de dollars américains pour l'organisation des élections. Écoutez, est-ce que l'État congolais a vraiment besoin d'aide pour organiser ses propres élections? J'ai entendu le projet de Maluma, le passement de terme pour l'organisation des élections, une affaire de 200 millions, quelque chose comme ça. Mais dernièrement, le ministre des Finances venait d'être interpellé. Suivez vous-même la traçabilité des fonds de la République, l'argent gaspillé. Où se trouve cet argent? Où se trouve cet argent que le contribuable paye? Et aujourd'hui, là, vous avez des immeubles qui poussent par-ci, par-là. Mais pour organiser les élections, on nous dit non, il n'y a pas d'argent, il faut ceci, il faut cela, il faut modifier la constitution pour passer. Non, je pense quand même que, à mon humble avis, le président Kabila, qui est un grand homme, qui a beaucoup fait également pour ce pays, je pense que tout autour de lui, il devrait être quand même très regardant par rapport à ses conseillers, à ceux qui lui disent, à ceux qui lui disent de faire ou de ne pas faire. Parce que tenter de modifier la constitution ou tenter de changer carrément cette constitution pour pouvoir lui donner la possibilité de se représenter une nouvelle fois serait de M. Kabila.
Oui, juste là, il y a quand même une certaine réflexion aussi. Hein. C'est vrai, quand on dit on ne peut pas, quand la Constitution ne donne pas une marge de manœuvre pour briguer un troisième mandat, mais la Constitution ne dit pas que, les partis, par exemple, de la majorité ne peuvent pas briguer un troisième mandat. Donc, je crois que, je ne sais pas, c'est question d'analyser, de comprendre un peu les textes. Les juristes sont mieux placés pour nous réexpliquer. Parce qu'un parti politique à la tête, une personne ne peut pas briguer 3 mandats, mais son parti peut aller même au-delà pour conserver les pouvoirs.
Tout à fait. Là, si vous raisonnez de la sorte, je suis d'avis avec vous. Mais si vous voulez nous amener un raisonnement de telle sorte que l'on puisse modifier la constitution ou carrément la changer pour permettre à un individu de s'éterniser au pouvoir, là je dis que un parti qui s'hasarderait dans une telle proposition, je pense qu'on pourrait l'appeler tout autre parti sauf un parti démocratique.
Merci beaucoup Justin d'avoir appelé. Vous avez au fait rappelé, disons, c'est la souveraineté de l'État. Vous demandez à ce qu'on soit un peu très regardant et très réaliste, parce que les États-Unis, selon vous, c'est quand même une puissance planétaire. Leur conseil, quand ils donnent des conseils au pays, il faut en tenir compte, parce que c'est quand même important. Et vous avez évoqué aussi l'aspect de la Constitution qui, selon vous, s'adapte à la réalité, le fait que la génération qui a en fait a voté oui pour cette constitution n'est pas encore passée, parce que 8 ans après, vous pensez que ce n'est pas le moment encore de modifier ou de changer cette constitution. Merci beaucoup Justin d'avoir appelé de Kinshasa. Nous allons prendre Franck de Vienne. Franck, bonjour. Allô Franck? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Franck. Nous revenons à vous, docteur Emmanuel Kabongo. C'est vrai, vous avez suivi Eddie et Justin. Comment vous orientez quand même leurs préoccupations?
Non, j'estime que c'est un plaisir pour moi de voir que les Congolais sont de plus en plus ouverts au débat politique et que de plus en plus sont en train d'acquérir une véritable conscience politique. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à la chose politique, ils s'intéressent aux dirigeants, ils s'intéressent aux débats, et ils donnent des positions claires et nettes. Donc je crois que pour moi, c'est un plaisir, parce que ça démontre que de plus en plus, les hommes politiques que nous avons aujourd'hui au Congo doivent se rendre compte que ce n'est pas le Congolais tiers qu'ils dirigent. Je crois que la misère qui nous a été imposée dans ces pays, a ouvert les yeux très rapidement au peuple congolais qui commence à comprendre que c'est l'espace politique en tant qu'espace d'affectation des ressources qui cause la misère ou qui cause la prospérité d'un peuple. Et si la misère est trop forte dans un pays, c'est justement parce que l'espace politique n'est pas bien géré ou il n'est pas trop responsable. Et c'est ainsi que les gens commencent à s'intéresser à cet espace, posent des questions, s'intéressent aux élections. Et cela doit amener l'homme politique congolais aujourd'hui à être prudent. Nous l'avons vu il y a quelques années, il y a des années avant 90, où Mobutu avait taillé une constitution à sa mesure. Et quand on lui disait non, écoute, ça ne va pas du tout, les gens souffrent, on vous disait non, nous avons construit des ponts, on a conçu ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens racontent ces choses, disent voilà, nous avons construit des routes, nous avons construit des ponts, nous avons construit des hôpitaux, c'est facile de vérifier si ce qu'ils disaient est vrai ou faux. Il suffit de regarder, par exemple, quand tu dis nous avons construit beaucoup d'hôpitaux, nous avons construit des hôpitaux de 100 millions de dollars, c'est vrai. Mais regardez quand l'OMS fait sortir sa statistique annuelle, l'OMS vous dit qu'au Congo, les maladies récurrentes sont devenues, sont trop nombreuses. Ça signifie que l'accès aux soins médicaux est très faible. Quand on vous dit, nous avons fait beaucoup de progrès en matière d'éducation, mais regardez quand l'UNESCO fait sortir sa statistique à la fin de l'année, on vous dit que la dépendance scolaire congolaise est la plus importante au monde. Quand on vous dit, mais l'agriculture chez nous a changé, nous avons fait des progrès. Mais regardez quand le FAO fait sortir sa statistique, les FAO vous disent
oui.
68% des Congolais accèdent difficilement à un repas par jour. L'ensemble de toutes ces statistiques démontrent que la gouvernance politique congolaise est tout à fait déficitaire, incapable et ne peut pas arranger la situation. Et ce moment-là, les gens doivent accepter le verdict et dire, n'est-ce pas, accepter l'alternance.
Oui. Et docteur Emmanuel.
Pour nous, oui.
Oui, docteur Emmanuel, il y a dit, je crois, c'est le deuxième auditeur qui a évoqué le problème de cet argent, par exemple, cette aide des États-Unis, 30 millions de dollars. Pour lui, c'est insignifiant parce que le pays peut organiser les élections avec ses propres moyens.
Oui, c'est vrai que depuis que nous avons commencé à organiser les élections depuis 2006 et 2011, nous avons remarqué que la machine électorale chez nous est une véritable machine à magouille. On y met trop d'argent et les résultats sont peu probants. Et vous allez voir, aujourd'hui ils demandent 700 millions, même si l'Amérique met 30 millions, ça sert à quoi? Ce qui est vrai est que dans notre pays, pour garder la souveraineté tant vantée, si un pays veut garder sa souveraineté, il doit être capable d'organiser ses élections sans accepter l'argent d'ailleurs. Parce que la main qui donne a toujours la possibilité d'ordonnancer aussi. Donc aujourd'hui, moi j'estime que si nous voulons être souverains, si nous voulons garder notre dignité, notre respect de nous-mêmes, nous pouvons organiser ces élections en y mettant les moyens et tous les sacrifices qu'il faut.
Voilà, on va repasser un nouveau standard avec Franck de Vienne et Olivier de Kikuit de l'Itouri. Franck, vous êtes avec nous, bonjour. Allô Franck, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour.
Oui, allez-y Franck, votre point de vue.
Oui, merci beaucoup pour la parole. J'ai suivi l'introduction de notre invité que je salue en passant. Je suis d'avis avec lui comme aussi d'avis avec les autres compatriotes qui ont tenu leur temps de dire avant moi qu'une visite d'État d'un politicien de la trame de John Kerry dans un pays post-conflit comme la RDC et au vu du poids et de l'influence des États-Unis d'Amérique au niveau de l'arène politique actuelle, peut être perçue et comprise de multiples manières selon les attentes qu'on a de part et d'autre, selon les ambitions et les calculs politiciens qu'on a et aussi selon les standards et les différentes appartenances qu'on peut avoir au niveau de nos sensibilités politiciennes internes. Et puis par rapport à la souveraineté de l'État, je crois que ce n'est pas seulement la RDC qui souffre de faire imposer sa souveraineté. C'est une difficulté qui est commune à beaucoup d'États du tiers-monde. Parce qu'on parle de l'autonomie, on parle de la souveraineté, mais une souveraineté doit s'imposer à base aussi de la manière de se prendre en charge. Si vous ne savez pas bien surveiller vos frontières, si vous ne savez pas subvenir à vos propres besoins, si la démocratie qui est d'abord une valeur à développer, une culture à promouvoir, et si la culture de la démocratie ou bien le budget des élections doivent être toujours parrainés par les autres, il y a aussi des histoires qui ne peuvent pas toujours aller. Moi, personnellement, ce qui me frise, ce n'est pas le fait que le secrétaire d'État américain soit passé chez nous. C'est un diplomate chevronné, il est en droit de se promener partout où il veut. Mais c'est le fait de voir que nos politiciens cherchent à cacher leurs déficits, à cacher leurs limites derrière cette visite ou quoi. Est-ce que vraiment chez nous, sommes-nous incapables de bien lire notre constitution et de l'interpréter? Ne pouvons-nous pas aussi comprendre cette constitution qui a été soumise au référendum que nous avons approuvé nous-mêmes, peuple congolais? Pourquoi avons-nous des difficultés pour appliquer certains articles? On parle de ces 30 millions donnés pour organiser les élections. Mais c'est bien. Mais vraiment, si on avait de l'orthodoxie au niveau de la gestion des deniers publics, est-ce que vraiment un État comme la RDC pouvait attendre ce qui vient de l'extérieur pour organiser des élections? Je crois que nos politiciens devaient d'abord s'interpeller. Parce que être politicien, c'est aussi être en mesure de prendre des dispositions régaliennes pour la gestion de son État. Moi, je vois mal que les uns et les autres se battent autour de la prise de la position de John Kerry. Selon moi, il a prodigué des sages conseils qui peuvent être bien exploités pour le bien des Congolais.
Alors,
le modèle démocratique des États-Unis comme un paradigme que les autres peuvent aussi imiter.
Alors pour vous, comment on peut capitaliser? Comment on peut capitaliser cette visite? Parce que c'est vrai, il y a d'une part l'aide que les États-Unis ont donnée pour soutenir l'organisation des élections en RDC, et d'autre part, il y a quand même cet appel de respect de la Constitution par les différents acteurs politiques. Que ce soit pour l'opposition ou pour la majorité.
Vous savez mieux que moi ce qui se passe là. Vous savez aussi que jusqu'ici, nous n'avons pas encore une classe d'hommes politiques qui respecte ce qu'ils promettent. Nous ne devons plus avoir honte pour le dire. On dit une chose devant la presse, deux jours après, comme on est habitué au sophisme grec, on peut le changer et changer le verbe et la teneur même du message qu'on venait de prononcer il y a quelques minutes. Le problème, c'est d'être responsable. Quand on promet une chose en public, quand on prête serment, tous ceux qui sont au pouvoir, du côté de l'exécutif, du côté du législatif, mais ce sont des gens qui ont été investis, qui ont prêté serment, ils prêtent serment en fonction des lois de la République. Ils sont investis en fonction d'une certaine constitution. C'est question que chacun se mette à sa place. Si j'ai prononcé à 9 heures, que je sois en mesure de respecter ces à 10 heures. Mais il ne faut pas que je prononce à 9h et vers 11h30 dire que non, ce n'était pas A, au lieu de A, c'était U. Ça devient O. Je crois que voilà. Le conseil qu'il a donné, c'est de nous demander de respecter la Constitution qui est la nôtre.
Voilà.
La Constitution n'est pas d'abord, ne doit pas être appliquée pour les peuples américains. C'est d'abord pour les peuples congolais.
Merci beaucoup.
Si on voit de l'extérieur que nos dirigeants ont de la peine pour faire appliquer des dispositions constitutionnelles, des textes qui nous régissent, c'est à ce niveau-là que les autres se permettent de nous interpeller. Mais
voilà.
Si on avait des dirigeants qui étaient à mesure de tout respecter, je ne pense pas que John Kerry pouvait prendre tout son temps pour venir nous rappeler
voilà.
Ce que nous connaissons.
Voilà, je crois
L'article 220,
oui.
Sa teneur est simple à comprendre.
Pourquoi
doit-il encore avoir autant de pistes d'interprétation? C'est parce que, messieurs les journalistes, on nous a habitués à des surprises. On nous a habitués à
merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Nous retenons que les Congolais sont capables d'interpréter eux-mêmes leur constitution et surtout la constitution qu'ils ont soumise au référendum. Je crois que il n'appartient pas aux étrangers ou à d'autres personnes de venir au fait interpréter à notre place. Donc c'est ça que nous retenons de votre intervention, Franck. Merci d'avoir appelé de Vienne en Autriche. Nous allons prendre Olivier qui est à Ituri. Olivier, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Vous avez la parole, Olivier. Votre point de vue, selon vous, quelle est la portée de cette visite de John Kerry à RDC?
Merci beaucoup, monsieur Gilles. Salut à tout le monde, à tous les auditeurs et Radio Capi. Nous savons bien que le diplomate américain est venu ici. Ils sont en train d'observer par tout ce qui se passe au monde. Il a fait le voyage partout en Afrique. Mais ici, chez nous, il a parlé beaucoup plus ici le respect de la Constitution. Et il voit déjà au-delà, il y a un danger qui est devant nous. Nous, les Congolais, nous ne savons pas comment les choses peuvent aller autrement par rapport à la Constitution. Les peuples congolais veulent la réalité. Si je peux faire un pas en arrière, à l'année 2011, l'élection qu'on avait fait en 2011, on devrait faire l'examen, l'élection souvent à deux tours. Normalement, les partis au pouvoir, ils ont fait tout de faire l'élection en premier tour, convaincre la population, et c'était leur stratégie personnelle de faire leur élection. Alors, cette fois-ci, le diplomate américain a vu très loin. Il a vu qu'il y a danger. Nous, les peuples, nous avons peur de ne pas passer jusqu'au niveau de ce qui s'est passé en chose à Côte d'Ivoire. Parce que le parti gouvernemental, le parti au pouvoir, cherche à s'accaparer toujours au pouvoir. Si nous écoutons à la radio...
Oui, mais Olivier, il ne faut pas oublier le principe. Quand on exerce le pouvoir, c'est vrai, on cherche à le garder le conserver le plus longtemps possible. Ce n'est pas par rapport aux individus, mais par rapport aux partis politiques. Je crois que partout au monde, même les républicains, s'ils ne doivent pas aux côtés des démocrates aux États-Unis, je crois qu'à chaque fois qu'on organise des élections, il y a toujours ces tendances. Il y a les républicains, il y a les démocrates, même s'ils ont, ils avaient, mais ce sont des individus qui ne reviennent pas après deux mandats. Donc je crois qu'à ce titre-là, nous pouvons quand même aussi interpréter et réfléchir pour, au fait, dépassionner un peu les débats. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir appelé de l'Ituri. Nous prenons Maître Gaston à Idiofa dans le Bandundu. Maître Gaston, bonjour.
Merci. À vous aussi, bonjour. C'est Idiofa.
Vous avez la parole. Votre point de vue, Maître Gaston.
Bon, disons que nous constatons que c'est une bonne chose, hein, nous soutenir. Les États-Unis veulent nous soutenir en ce qui concerne l'organisation de nos élections ici. Et puis vous voyez que jusque-là, on ne s'est pas organisé parce qu'on n'a pas de moyens. On attend que ces gens-là puissent décider en ce qui concerne les matières de la politique interne. Mais j'ai aussi une petite observation là d'une manière générale. Vous allez constater que les États-Unis, ce sont eux qui viennent en Afrique soutenir les élections ici. Mais nous, quand est-ce que nous irons aussi soutenir leurs élections? Alors la main qui donne,
c'est la main qui contrôle, qui décide, voilà. Mm-hmm.
Vous ne voyez pas, que je ne crois pas qu'il n'y ait pas des agendas cachés, parce qu'ils ont parlé du respect de la Constitution, qu'il n'y ait pas des agendas cachés par rapport à cette déclaration. Parce que vous savez que les États-Unis, des fois, sortent comme si en Afrique, ça ne va pas, et puis... Ils viennent comme de donner des leçons, de donner des leçons à nos dirigeants. Ils connaissent bien que chez nous, la Constitution est parfois à tout moment, elle n'est pas respectée, ça personne ne l'ignore. Alors, demander à nos dirigeants aujourd'hui de respecter la Constitution, ce serait une manière. Mais maintenant, quand je vais poser une question, lorsque la Constitution ne sera pas respectée, quelle serait maintenant la position des États-Unis par rapport, parce que et puis les élections d'une manière générale, pour moi, je pense que ce sont des plébiscites, ce sont des choses qui dépensent, qui font gaspiller l'argent pour rien. À mon avis, dites aux gens que nous allons rester éternellement au pouvoir, mais l'argent, au lieu de tromper la vigilance avec des élections, des trucs comme ça, vous allouez ça à d'autres fins, par exemple... faire nourrir la population au lait à tout moment, parce que nous connaissons les élections en Afrique n'ont pas de valeur de crédibilité comme je sais pas ailleurs si c'est le cas, mais nous tromper de la portée de son message sur les élections, le respect de la Constitution, je pense que ça couvre, il y a pas de l'agenda caché là-bas par rapport, et puis l'apport des États-Unis, de la part des États-Unis, la responsabilité des États-Unis par rapport à tout ce qui se passe en RDC. Nous devons prendre notre politique interne en main, c'est une bonne chose, pour aussi s'égaler, parce que nous sommes État, sur le plan, nous sommes État, ils sont État.
Un État souverain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Gaston. Donc, nous ne recevons des leçons des personnes. Il faudrait que nous jouissons de notre souveraineté. Nous allons prendre Omar, qui est à Kinshasa. Omar, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio au Capi.
Vous avez la parole, Omar.
Merci beaucoup JR, je vous remercie pour ces sujets qui engagent les relations internationales et je voudrais d'entrée de jeu vous dire que je voudrais pavimenter l'intervention en deux phases. Premièrement, je parlerai sur le plan juridique et deuxièmement sur le plan politique. Ce qu'il faudra retenir sur le plan juridique, c'est que les relations entre États ou les relations internationales sont régulées par la charte de l'ONU. Et selon un des articles de cette charte, aucun État n'a le droit de s'ingérer dans les affaires internes d'un autre. En ce sens, peut aujourd'hui déclarer à haute voix que les États-Unis ni encore M. Kerry n'ont le droit de venir de donner des leçons. Pas sur le plan juridique, chose pourtant qui n'a pas été faite. Sur le plan politique, je pense qu'il faut maintenant nuancer les débats. Parce qu'il faudra retenir que John Kerry n'est pas seulement venu ici pour les élections, il n'est pas seulement venu ici pour donner des aides, il est venu dans le cadre de la coopération entre les États-Unis et la RDC. On ne peut pas faire dire à John Kerry ce qu'il n'a pas dit. Alors, quelle image nous avons de ces messages? Moi, je voudrais que nous soyons internationalistes pour réaliser. Premièrement, moi je pense que cette visite témoigne que la communauté internationale a une attention soutenue sur ce qui se passe en RDC. Je ne pense pas que les professeurs Dion Katon, Touarimba, Kabuya Lumuna, même l'invité, peuvent me contredire. En relation internationale, la visite d'un émissaire d'un État puissant sur un autre État témoigne la considération que ce dernier donne. Quel est l'impact que cela peut avoir? Moi, je pense que l'impact de cette visite ou de cette arrivée de John Kerry sur le plan économique est très fondamental, dans la mesure où personne ne peut ignorer qu'il arrive un moment où Barack Obama a déclaré hautement que les relations commerciales entre les États-Unis et la RDC étaient rompues parce que le respect des droits de l'homme n'était pas assuré. Si aujourd'hui la même personne peut venir appuyer que nous avons de bonnes relations, c'est qu'il y a eu des améliorations. Et sur le plan politique, c'est une façon de tranquilliser, de stabiliser le cycle électoral lorsque une grande nation, qui est une forte nation, vous dit que vous devez respecter. Troisièmement, pour finir, Gilles, quels sont les acquis diplomatiques qu'on peut retenir et qu'on peut capitaliser? Moi, je pense, premièrement, il faudra retenir ici que John Kerry soit venu ou pas, on reconnaît la grandeur d'un État à sa façon d'appliquer les textes. Les textes, ce n'est pas ce qui est prévu, mais plutôt ce qu'en font ses acteurs. Il y a des textes qui existent. Moi, je pense que le respect des lois par tout le monde, gouvernant et gouverné, pourra, n'est-ce pas, faire avancer ces pays. Deuxièmement, il faut que les opérateurs politiques, toutes tendances confondues, soient matures. Il ne faut pas qu'on attende l'arrivée de John Kerry pour qu'on puisse analyser les cycles électoraux. Ces pays nous appartiennent et nul ne peut venir donner des leçons ici. Cette arrivée a un impact diplomatique. C'est fondamental, mais sur ce qui est l'organisation interne de la RDC, ça la reste du respect des textes ainsi que de la maturité des opérateurs politiques. Que John Kerry ait dit ou pas, on n'a pas besoin de ses conseils, de ses conférences pour qu'on tienne. Son arrivée était plus diplomatique pour renouer les confiances qui existaient entre la RDC et les communautés internationales. J'allais dire la communauté internationale, mais ça n'a rien à voir avec cela. Voilà mon avis, c'est que moi je pense de cette arrivée et c'est qu'on peut capitaliser, n'est-ce pas, pour continuer.
Voilà, merci beaucoup Omar. Vous avez focalisé votre intervention sur deux points, l'aspect juridique et l'aspect politique. Vous saluez donc l'arrivée, mais tout en soulignant que, au fait, en relation internationale, les relations entre États sont régulées par la Charte des Nations Unies, et à ce titre-là que John Kerry a fait cette visite, et vous nous avez rappelé donc la position des États-Unis par rapport à la coopération qui a été rompue, et aujourd'hui, cette visite témoigne le fait qu'il y a un rétablissement encore de la coopération entre RDC et les États-Unis et qu'il faille maintenant capitaliser pour permettre à ce qu'on puisse garder le bon niveau de cette coopération. Merci beaucoup Omar d'avoir appelé de Kinshasa. Et Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, messager. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les autres de Radio Okapi.
Vous avez la parole. Votre point de vue.
Merci beaucoup, messager. Vous savez, aujourd'hui, moi, je continue à saluer l'arrivée du secrétaire d'État américain en République démocratique du Congo. Puisque aujourd'hui, la question qui est à la ligne en République démocratique du Congo, c'est l'organisation des élections en 2016. Et c'est le même message que le secrétaire d'État américain est venu avec. Pour moi, j'ai vu que le secrétaire général d'État américain, il est venu rappeler les peuples congolais de revenir à la conscience, de voir l'importance de l'organisation des élections libres et démocratiques pour faire sortir notre pays du chaos que nous traversons, mes chers. Il y a certaines personnes qui parlent que non, nous sommes un État souverain, etc. Non, non, puisque nous avons des relations diplomatiques comme mes prédécesseurs l'ont déjà dit. D'où les États-Unis ont ce plein droit en tant qu'étant collaborateur de notre pays, de venir nous assister dans une situation quelconque. D'où Mais le message du secrétaire général pour moi, c'est de rappeler et les peuples congolais et les autorités congolaises à la conscience pour l'organisation des élections libres et démocratiques en 2016 de M. JR.
Merci beaucoup, Maître Machaka, 081-890-6315, pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Okapi Danse, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Okapi Danse, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs. Nous avons en ligne Dr Emmanuel Kabongo qui est l'animateur du mouvement d'éducation à la conscience nationale dénommé Congolais Fier. Alors nous avons suivi tous ensemble donc avec vous docteur cette longue série des auditeurs. Alors comment, qu'est-ce que vous avez retenu de ces de leurs interventions?
Non, je suis heureux de constater que il y a un consensus au niveau national, que ce soit le garçon de Diofa,
que ce soit Omar de Kinshasa,
Mounia Goma, il y a un consensus qui se dégage, à savoir que effectivement, on ne doit pas changer la constitution. Et, même si les Américains, Kerry n'était pas venu nous en faire un conseil, pour respecter la constitution et organiser des élections démocratiques et transparentes. Alors moi, ce que je voudrais dire à nos auditeurs, comme à tous les peuples congolais, c'est que de par le monde, c'est-à-dire partout au monde, les choses bougent, les choses changent, parce que les hommes, tous les hommes, que ce soit des noirs, que ce soit des blancs, des rouges, des jaunes, n'ont besoin que d'une chose, c'est-à-dire la liberté. L'essence de l'histoire et l'essence de la liberté. Et que ces choses ne bougent qu'en fonction de l'intérêt et le peuple lui-même, en fonction de son action, en fonction du sens des sacrifices qu'ils peuvent porter pour que les choses ça bougent. Les choses ne bougent pas d'elles-mêmes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, comme ils sont en train de le dire dans cette radio mondiale, que non, nous ne voulons pas que la constitution soit changée, s'arrêter aux déclarations. Pour que cela ne puisse pas advenir, il faut que ces gens qui parlent aujourd'hui à la télévision, à la radio, puissent se mettre dans des petits comités de refus, puissent formater des comités de base, puissent s'organiser, c'est-à-dire mettre en place des structures pour dire non à tout ça. Donc, ce que je souhaite, c'est comme ça que les peuples évoluent. Les peuples n'évoluent pas tout simplement par les discours. Le discours est important parce que le discours construit la réalité. Mais après, la construction de cette réalité, il faut l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut l'organisation. Donc, moi, je suis heureux de constater que tous les Congolais, tous les avocats qui ont pris parole, les enseignants, les hommes d'affaires, ont même constat que de toute façon, tout à fait irréversible, il faut qu'on laisse la constitution tranquille et que d'une façon tout à fait irréversible, il faut que nous ayons des élections transparentes, libres et démocratiques, mais que moi, ce que j'ajoute, c'est pour leur dire que voilà, il ne faut pas s'arrêter au niveau de la rhétorique. Il faut, au-delà de la rhétorique, organisez-vous de partout. Vous êtes, vous qui êtes Diofa, vous qui êtes de Kinshasa, Mujimai, Kananga, Kisangani, Bakongo, organisez-vous pour que ces sentiments-là puissent apparaître comme une organisation au niveau national, c'est-à-dire une organisation qui refuse qu'on touche à notre document d'identité commune, qu'est la Constitution, et que nous puissions avoir, n'est-ce pas, des élections libres et démocratiques.
Voilà, il y a Maître Omar qui a au fait relevé aussi un aspect très 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 nouveau par rapport aux interventions, et il a évoqué les relations entre États qui sont régulés dans la Charte des Nations Unies. Au fait, il a même inscrit donc la visite de John Kerry dans le cadre de l'établissement de la coopération qui a été rompue.
Oui. Mais bien sûr, la relation entre l'Amérique et la RDC n'a jamais été rompue. Je n'ai jamais vu ça.
Pas officiellement.
Mais ça n'a jamais été rompu. Mais ce qui est vrai, comme Omar l'a dit, c'est que nous avons eu là la visite d'une la plus haute personnalité américaine après le président de la République. Et le secrétaire d'État américain, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas du n'importe quoi. C'était quelqu'un qui a un potentiel de pouvoir au niveau des États-Unis et que son déplacement au Congo est significatif. Donc, je ne doute pas de ce que
Omar
a dit. Donc, j'apprécie. J'ai dit tout simplement qu'il faut qu'au-delà de cette rhétorique, au-delà de ces constats, à savoir que nous avons eu la visite d'un très haut responsable américain, parce qu'après le président des États-Unis, c'est le secrétaire d'État, et du moins celui qui est là, et que cet homme nous a dit, voilà, respectez votre constitution, mais pour que ce respect-là puisse être effectif, il ne faut pas s'attendre à ce que les hommes politiques, de partout au monde, les hommes politiques ne changent pas de comportement parce qu'on leur a donné des conseils. N'est-ce pas? Les hommes politiques ne changent pas de comportement, ne deviennent pas plus responsables parce qu'on leur a donné des conseils ou parce qu'on a fait des prières. Les hommes politiques n'acceptent que l'action. C'est-à-dire, il faut
des groupes de réflexion.
Dans les années 90, n'est-ce pas? Les hommes doivent pouvoir être en mesure d'aller dans la rue, de s'exprimer, de parler, de montrer qu'il y a un rapport de force qui s'établit en leur faveur.
Donc, voilà. Oui, docteur Emmanuel Kabongo, on va prendre encore une autre série des auditeurs. Il y a Michel qui est à Matadi. Bonjour Michel.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, on vous accorde la parole par rapport à ce qu'a annoncé John Kerry lors de son séjour à Kinshasa. Une aide de 30 millions de dollars pour soutenir l'organisation des élections à RDC. Et il a par ailleurs appelé les différents acteurs au respect de la Constitution. Alors, pour vous, quelle est la portée de cette visite du secrétaire d'État américain?
Moi, je crois que la visite était assez jouée. Alors, je veux dire, vous savez qu'aujourd'hui, il n'est ignoré. Et les États-Unis et l'aide du monde. Aujourd'hui, nous le remarquons partout, même où les guerres, les États-Unis a un mot à dire. Mais comme nous le disons toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Vous savez, pratiquement, depuis Bouchard avait lancé son ouvrage, il y a eu une tumultuité dans la scène politique de notre pays. Et moi, je crois que face à tout cela, les États-Unis devait avoir un mot. Et moi, je crois, nous sommes un pays démocratique, une république démocratique du Congo. Donc, notre pays, son nom, devrait aussi aller ensemble avec des éléments qui définissent effectivement que nous sommes un pays démocratique. Vous savez, pourquoi j'avais suivi un panafricain, dire Média Congo. Tous les pays africains ont l'œil tourné sur les Congo. Ils savent parce que,
voilà, on a des petits soucis hein, sur votre ligne. Je ne sais pas si vous êtes dans une maison ou peut-être sur une colline. Vous êtes peut-être sur une colline là, on dirait.
Ah bon, c'est bon, j'ai
fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous êtes dans une maison, vous sortez comme dans une caisse, d'une manière, disons, vous sortez très mal, et puis c'est vraiment à mauvaise qualité. On va revenir à vous si jamais la ligne ça s'améliorait. Le temps de prendre d'abord Papy de Kinshasa. Bonjour Papy.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à l'invité.
Votre point de vue, Papy.
Oui, merci de la parole. Je souhaiterais d'abord soulever que nous ne devons pas oublier que les rapports entre les États ne sont pas des rapports des aides, ce sont des rapports de force et des intérêts. Alors, par rapport à la portée du message du secrétaire d'État américain, moi je dirais que c'est un message qui est purement interpellatif. Du fait qu'il amène les dirigeants africains en général et ceux de la RDC en particulier de commencer à réfléchir sérieusement sur la façon dont certains de leurs proches les obligent de chercher de voir ces moyens pour se maintenir au pouvoir. En d'autres termes, le gouvernement américain veut voir l'instauration de l'alternance au sein de toutes les institutions de notre pays et qu'il y ait également mutation de l'instabilité constitutionnelle vers la stabilité de la loi fondamentale qui est la Constitution.
Non.
Voilà. Oui, merci Papy. Voilà. Nous revenons à Michel. Michel, est-ce que je ne sais pas si la ligne s'est améliorée là. C'est Diagal, on va encore essayer, Michel. Voilà, Michel n'est pas en ligne. Alors, docteur Emmanuel.
Oui.
Oui, votre réaction.
Oui, c'est comme tout à l'heure, je pense que on ne peut qu'être content parce qu'on constate que notre peuple, ses élites, parce que tous ces intervenants, ce sont des grandes élites, sont conscientes qu'il faut quelque chose soit fait. À savoir que la Constitution ne doit pas être changée et que malgré le. Et même si les Américains sont venus nous en faire une leçon ou bien un conseil, que nous acceptons de façon amicale,
c'est au peuple lui-même de
s'organiser. Oui, 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 mais docteur Emmanuel Gabongo, il y a un auditeur qui, en fait, avait souhaité, il avait même posé une question. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas de figure où, nous agissons en toute souveraineté, on organise et les conseils ne sont pas pris en compte?
Non. Écoutez, c'est une question tout à fait qui ne peut même pas être posée. Parce que la réalité est que quand on définit la gouvernance aujourd'hui, on a défini tout son modèle triptyque. C'est-à-dire la gouvernance, c'est l'État, c'est la société civile et c'est le peuple congolais. Donc il est inacceptable qu'une élite congolaise puisse se poser la question, on dit, mais si on ne respecte pas les conseils des Américains, si on organise une élection, vaille que vaille, et si on change de constitution, qu'est-ce qui va arriver? Non, on ne peut pas poser de telles questions. Parce qu'on veut éviter que les choses arrivent. Il faut que les autres acteurs de la gouvernance politique, qui sont la société civile, qui sont le peuple, puissent empêcher l'un des acteurs, qui est l'État, c'est-à-dire ses hommes, à commettre des impairs, c'est-à-dire les empêcher de changer la constitution, les empêcher de faire des élections vaille que vaille, parce que là, ils mettent en cause notre existence même en tant qu'être humain. Donc moi, j'ai dit à notre ami tout à l'heure, j'ai dit, il ne faut pas poser des questions dans ce modèle-là, parce que ça démontre un délabrement mental. Il faut dire, nous sommes un peuple, c'est-à-dire nous participons tous au même actif égal à la gouvernance politique nationale. Nous devons faire en sorte que l'autre parti, c'est-à-dire l'État et ses hommes, puissent respecter les deux autres parties, que sont la société civile et le peuple. Donc, je ne pose pas la question autrement, quoi.
Voilà, on va prendre Gérard de Bonnet du tout, parce que papier est déjà passé. Gérard, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et également tous les auditeurs.
Voilà, vous avez la parole.
Ok, moi j'ai dit ceci, que... c'est comme si un parent qui est chez lui, dans sa maison, il a des difficultés dans sa maison, mais il attend que son voisin vienne trouver des solutions dans sa maison. Alors, si un parent qui est chez lui, qui a des difficultés, il attend des solutions qui doivent venir d'ailleurs, nous pouvons dire que c'est un parent irresponsable. Et en d'autres termes aussi, c'est un parent qui a la mauvaise foi. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens, il est digne d'un païen. Et il y a aussi un verset biblique dans 2 Corinthiens, le chapitre 8e, le verset 12, qui dit ceci. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Vous comprenez? Donc, dire qu'on ne sait pas interpréter notre constitution, ou non, ça... Moi, je ne partage pas ce point de vue.
Oui, mais Omar a dit. Oui, c'est pourquoi Omar, Gérard, c'est pourquoi Omar a dit que nous sommes Congolais, c'est nous qui avons élaboré cette constitution qui a été soumise d'ailleurs au référendum, votée, oui, par la majorité de la population congolaise. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes à même de pouvoir quand même interpréter cette constitution. Pourquoi attendre que les étrangers ou d'autres personnes qui ont une vue extérieure puissent nous donner des leçons par rapport à ça?
Oui, nous savons, pour moi, nous savons bel et bien interpréter notre constitution, mais seulement si nous ne voulons pas appliquer ce que nous avons nous-mêmes conçu, ce que j'appelle moi la mauvaise foi, la mauvaise volonté. Nous savons, mais nous faisons semblant de refuser ce que nous-mêmes nous avons mis en place.
Alors donc, et à propos de 30 millions de dollars pour soutenir l'organisation des élections en RDC, vous avez un commentaire?
Oui, ce n'est pas l'argent qui nous manque dans notre pays. Notre Dieu, le créateur de toutes choses, a donné beaucoup d'argent dans ce pays. L'argent est là. Les 30 millions des Américains, pour moi, ça ne me dit absolument rien. L'argent est au pays.
Donc l'argent est au pays. Donc vous dites comme vos prédécesseurs que nous serons capables d'organiser des élections avec ou sans les États-Unis?
On peut organiser avec ou sans États-Unis, il y a moyen d'organiser les élections si nous voulons réellement organiser les élections dans notre pays.
Alors comment maintenant capitaliser le passage de John Kerry en RDC et tous les messages? Donc nous avons dit, vous avez déjà défini la portée de ces messages. Alors comment on peut capitaliser ça? Seulement le respect de la Constitution ou il faut aller au-delà?
Il faut respecter la Constitution telle qu'elle est conçue, il faut respecter. Et aller au-delà, c'est créer encore les troubles sur le pays.
Voilà, merci beaucoup Gérard de Mouéléditou. Nous prenons Dr Emmanuel Kamongo, oui. Qui, en fait, petit à petit, nous approchons de la fin de notre émission. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de messages qui nous sont parvenus. Polydor Moufoula dit ceci, le Congo ne peut pas trancher ses problèmes sans l'intervention du monde extérieur. Suivant l'exemple de la Tanzanie, elle organise chaque fois les élections sans l'intervention extérieure. Pourtant, ce pays n'est pas plus si riche que le nôtre. Seulement, leurs dirigeants ont une bonne conscience. Commentaire, docteur Emmanuel.
Oui, mais c'est ce que j'ai...
Donc l'exemple de la Tanzanie.
Je l'ai dit tout à l'heure, les dirigeants politiques ne sont pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas les gens qui se réveillent le matin, de bonne humeur, et ils font des bonnes choses pour leur peuple. Ça, ce n'est pas dans leur nature. Comme tous les dirigeants politiques, pour qu'ils puissent devenir des gens responsables, respectueux de la loi commune ou de l'identité commune qu'est la Constitution, pour qu'ils soient respectueux de l'acceptation du duché des ressources, il faut que le peuple, c'est-à-dire l'autre partie de la gouvernance politique, puisse s'exprimer et puisse agir. Les autres politiques ne cherchent pas des comportements comme ça parce qu'ils sont allés faire une prière, ils ont vu la vision du...
Voilà, docteur, s'il vous plaît, on vous garde encore en ligne et puis nous rappelons à ceux qui veulent intervenir, comme il nous reste encore un quart d'heure, qu'ils peuvent composer également les 081-890-63-15.
Radio Okapi.
Le bulletin d'information, Pascal Massirika.
Okapi.
Madame, messieurs, bonjour. Le premier ministre de la RDC séjourne depuis lundi à Mascate, au Sultanat d'Oman. Dans cette ville du Golfe Persique en Asie, Auguste Matata Ponyo participe à la réunion mondiale annuelle sur l'éducation pour tous. À l'occasion, il a évoqué les avancées réalisées sur l'amélioration du système éducatif au pays. Prennent part à ces assises des représentants des États membres de l'UNESCO, des organismes du système onusien et organisations régionales, la société civile, ainsi que des instituts et fondations de recherche. Au Kasaï occidental, le responsable de l'Organisation internationale des migrations OIM Kananga a visité hier le camp militaire Bobozo. C'était pour se rendre compte de l'évolution du projet d'assistance et d'amélioration des conditions socio-économiques des familles militaires et des populations avoisinantes. Patrick Charignon annonce pour décembre prochain la fin des travaux qui sont financés par l'Union européenne. Il est dit à André Kambala.
D'abord, c'est la réhabilitation et l'amélioration de 280 logements et 4 blocs sanitaires, le foyer social et la réhabilitation de la station de pompage d'eau de la régie des eaux de Chintuntu. Donc ça, c'est les infrastructures. Il y a également une partie de l'activité génératrice de revenus. Donc c'est la création de 3 coopératives pour l'agriculture, l'élevage et ce qu'on appelle les métiers artisanaux pour 240 épouses de militaires et 40 épouses civiles. La troisième composante, c'est la formation professionnelle pour 130 membres du corps de génie civil des FRDC, 40 civils bénéficiaires, et puis ces formations permettent d'assurer la pérennité du projet, donc après l'intervention de l'OIM, et s'articulent autour du développement communautaire aussi avec les coopératives, et également au niveau de l'infrastructure pour le génie civil. La dernière composante, ce sont des campagnes de sensibilisation au niveau de la gestion, la maintenance des infrastructures, l'hygiène, l'éducation civique, les maladies sexuellement transmissibles qui ont également conduit auprès des bénéficiaires.
L'actualité, c'est aussi le Katanga, où les importateurs de la farine de maïs se plaignent de l'exigence de la DGDA de la taxe sur cette denrée alimentaire à la douane de Kasumbalesa. Plainte formulée hier lors d'une rencontre avec le chef de cette entité. Selon le porte-parole des importateurs, la DGDA refuse d'appliquer le décret du Premier ministre congolais sur l'exonération de la farine de maïs. Kennedy Madika affirme que certains commerçants préfèrent plutôt dédouaner leurs marchandises en passant par les champs pour échapper à la douane. Le chef de cette cité dit avoir initié déjà des démarches pour trouver une solution pacifique. Mais selon le sous-directeur de la DGDA Kasumbalesa, ces importateurs ne sont pas reconnus dans le système informatique de cet office. Il les invite par conséquent à se conformer à la loi fiscale. Enfin, au sud Kivu, la société civile de Burini dénonce l'impunité des policiers dans cette chefferie du territoire de Mwenga. Des sources concordantes affirment qu'un présumé violeur arrêté vendredi dernier après son forfait a été relâché hier mardi sans procès ni enquête. Indigné, la société civile de Bourigny demande aux autorités de faire respecter la loi en matière de violence sexuelle. Joint par nos soins, le commandant de la police de la contrée réfute en bloc ces allégations. Il affirme que le présumé violeur s'est évadé du cachot hier après-midi. Le policier de garde a même été arrêté. Fin de ce bulletin des nouvelles. Merci d'avoir écouté.
Voilà, nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Docteur Emmanuel, avant le bulletin, vous étiez en ligne et vous parliez de la conscience nationale. Docteur Emmanuel, vous êtes avec nous? Voilà, nous avons également des petits soucis avec la ligne de Docteur Emmanuel. Nous allons relire le message des auditeurs. Alors, la RDC, Jonathan Kisson, Louvounou, dit ceci, c'est ainsi qu'il peut aider son pays, il dit, le Congolais doit jouir, voilà, de la souveraineté de leur pays et non se faire de faux interprètes des autorités étrangères de passage au pays. En bref, le problème congolais doit avoir des solutions congolaises. Voilà, Jean-Paul Kamandé dit ceci, il est temps que la RDC joue son rôle régional. Pour y parvenir, il faut une stabilité politique avec un pouvoir légitime, d'où l'importance des élections. Jules Max Mbouyou, le message clé de John Kerry est que, c'est pour semer la confusion dans les chefs de la population congolaise. Junior Tamboué, la RDC n'est pas un bébé, pourquoi devons-nous être aidés à tout moment? On veut nous faire croire qu'il n'y a pas de sages au Congo. Anderson, nous n'avons pas besoin d'aide car notre pays a beaucoup de ressources. Ces 30 millions des États-Unis n'est pas un don, c'est pour que la RDC s'endette encore. Polydor Mafuta, le Congo ne peut pas trancher ses problèmes sans l'intervention du monde extérieur. Suivons l'exemple de l'Ali de la Tanzanie, elle organise chaque fois les élections sans l'intervention extérieure. Pourtant, ces pays n'est pas plus riche que notre, seulement le nôtre, pardon, leurs dirigeants ont une bonne conscience. 081-890-6315 ou bien le 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Voilà, nous revenons, on va prendre un autre auditeur qui nous a rejoint à Angola, qui est dans le Bandundu. Angola, bonjour. Angola, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Radio Capi.
Oui, votre point de vue.
Bon, j'ai des questions à vous annoncer. Ça me fait d'abord
Angola. S'il vous plaît, on doit aller directement à la thématique, la problématique. Quelle est la portée, selon vous, quelle est la portée de la visite de John Kerry par rapport à ce qui s'est passé dans l'actualité?
Ok, j'aimerais seulement intervenir sur le problème de l'élection que vous venez de parler.
Nous parlons de la visite du secrétaire américain, du secrétaire d'État américain.
Ok, voilà, et je n'arrive pas à comprendre. Le secrétaire américain venait déposer là. Ici, dans notre pays, nous manquons l'argent pour organiser l'élection. Ça ne peut pas se faire. C'est eux-mêmes les Américains qui font venir la démocratie. Pourquoi de cette chose? Donc, nous avons beaucoup de richesses dans notre pays. Nous pouvons organiser l'élection nous-mêmes. Nous avons des richesses. L'argent est là. Et qui...
Voilà, on a des petits soucis aussi avec votre ligne. Voilà, on aurait bien voulu vous garder à Londres, mais bon, voilà, malheureusement, c'est une mauvaise qualité de communication avec votre ligne. On va prendre plutôt Guillaume qui est à Ituri. Guillaume, bonjour.
Bonjour, Gérard.
Vous avez la parole, Guillaume.
Ah, merci beaucoup, Gérard. Bon, je ne sais pas beaucoup évoquer la question sur l'argent,
parce que la DG c'est beaucoup à Nitori. Je crois que dans la province orientale c'est beaucoup plus, et surtout à Durba, même dans une semaine on peut même trouver plus que la vallée de ce que Jeune Kéri a dit la fois 10. Je crois que pour moi le passage de Jeune Kéri porte un message de pèsement. Hier, vous savez tous que l'aide des États-Unis est conditionnée, donc ce n'est pas un don, ce n'est pas une bonus. Donc nous avons tous un dénominateur commun qui est l'État. L'État est notre ennemi à nous tous. Si on perd l'État, tout le monde perdra. Donc il faut qu'on organise une élection. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup Guillaume. Nous revenons encore sur les messages qui nous ont été envoyés. Jonathan, Pascal Cavarios, Jean-Paul Angazé, Eddy Kilocho, Jules Max Mbouyou, Junior Tamboué, Anderson et Polydor Moufoula. Polydor a dit que le Congo ne peut pas trancher ses problèmes sans l'intervention du monde extérieur. Suivant l'exemple de la Tanzanie, elle organise chaque fois les élections sans l'intervention extérieure. Pourtant, ce pays n'est pas plus riche que les nôtres, seulement leurs dirigeants ont une bonne conscience. Donc nous avons voulu la démocratie, alors il faut qu'on puisse exécuter cette démocratie. Junior Tamboué, la RDC n'est pas un bébé, pourquoi devons-nous être aidés à tout moment? On veut nous faire croire qu'il n'y a pas de sages au Congo. Jules Max Mbouyou, les messages clés de John Kerry, c'est juste pour amener la stabilité politique à RDC et aussi avoir un pouvoir légitime, d'où tout doit passer par les élections. Pascal Cavarios dit ceci, les Congolais doivent jouir de la souveraineté de leur pays et non se faire de faux interprètes des autorités étrangères des passages au pays. En bref, les problèmes congolais doivent avoir des solutions congolaises.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater. Les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Laissez-vous guider.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a séjourné à Kinshasa du 3 au 4 mai dernier. Il a annoncé une aide de 30 millions de dollars pour soutenir l'organisation des élections en RDC. Il a par ailleurs appelé les différents acteurs au respect de la Constitution. Alors nous en débattons. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission avec comme question principale, quelle est selon vous la portée de cette visite? Donc la visite du secrétaire d'État américain. Donc nous vous appelons donc à nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de nous appeler au 081-890-6315. Martin, merci de nous rejoindre. Vous êtes en ligne. Bonjour Martin.
Bonjour Monsieur J.F.
Vous êtes à Lubumbashi. Votre point de vue.
Merci de pouvoir m'associer à ce débat d'aujourd'hui. D'entrée de jeu, moi je voulais dire ceci. L'arrivée de John Kerry ici au Congo était la bienvenue parce qu'elle est venue couper court à des problèmes qui pouvaient surgir dernièrement ici lorsqu'il y a eu des problèmes du côté de la majorité qui visait toujours à réviser la constitution du pays. Monsieur Zier, les États-Unis, c'est un allié de la République démocratique du Congo. C'était au bon point que le secrétaire d'État puisse venir donner son Congo. Il n'est pas son point de vue privé, son point de vue personnel, mais le point de vue des États-Unis. Le Congo, c'est un pays qui doit faire un effort pour établir la démocratie. Nous avons le gouvernement qui est en place. Bientôt là, nous tendons vers les élections, mais le gouvernement doit faire un effort pour respecter la Constitution pour que les élections puissent se présenter dans les échéances prévues. Donc c'était ça, moi je trouve que la visite de John Kerry au Congo ici était vraiment la bienvenue
pour la population de la RDC. Merci beaucoup.
Oui, Martin, et quel commentaire avez-vous par rapport à cette à l'annonce de cette aide de 30 millions de dollars pour l'organisation de ces élections? Voilà, dommage, Martin n'est plus en ligne. Voilà, je disais, Martin, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cette aide annoncée par John Kerry de 30 millions de dollars pour soutenir l'organisation, oui.
Par rapport au soutien des États-Unis de 30 millions de dollars pour les élections à venir, moi je trouve que c'est toujours un coup de pouce. Hein. On ne peut pas refuser, étant donné que le Congo se dit toujours qu'il n'est pas en mesure d'organiser les élections aux échéances prévues, faute de moyens. Mais c'est toujours un coup de pouce, on ne peut pas refuser ça. Ce n'est qu'une bonne chose pour l'intérêt du pays.
Voilà, merci beaucoup Martin, et nous disons également merci à tous d'avoir participé à ce débat.
Allô? Mais, ils ne répondent pas?
À participer à ce débat. Merci à vous tous. Merci également à Héritier Sidiakala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Noëlla Lozi, tu l'as réalisé. J.R. Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Le projet de coopération sino-congolaise en RDC a dans son actif plusieurs réalisations essentiellement au volet du développement des infrastructures des bases et communautaires, s'agissant des routes, notamment la qualité de ces ouvrages réalisés. On fait aussi débat depuis la signature des conventions à l'exécution, où en est-on à ces jours? C'est les débats de demain. Donc, retrouvons-nous.